ça va toi aujourd'hui?
Là je me sens bizarre.
Je sais pas, je suis pas du tout, je te jure. Oh, j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
Non, c'est comme chez un psy, je raconte.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce que ça raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence radio. La radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglo.
Bonjour, bonjour, ben, nous voici de retour sur les ondes de Radio Panique, sur les ondes de 105.4 FM et c'est Silence Radio qui commence aujourd'hui. Alors le thème du jour, nous allons parler du TDI et comme invité, nous avons Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Et alors nous avons évidemment nos chroniqueurs qui sont là et tous en forme. Nous avons Hélène.
Bonsoir.
Mehdi qui nous rejoint.
Salut tout le monde.
J'ai Pascal.
On m'a entendu?
Oui, on t'a entendu.
Super, super.
On t'a entendu, Pascal.
Bonsoir à tous.
Alors, Audrey.
Hello.
Karim.
Bonjour tout le monde.
Et Chantal.
Bonjour à tous les auditeurs.
Et à la régie, nous avons Julie qui fait sa deuxième aujourd'hui. Alors, nous avons aussi Camille. Et nous avons aussi...
Stéphane.
Voilà, Stéphane qui est là, qui vient nous rejoindre aussi. Nous allons sans plus attendre écouter justement un micro-trottoir qui va nous parler un peu plus du TDI, qui va nous mettre dans le bain.
J'ai entendu parler du TDI.
TDI. Oui, je pense que c'est pour le travail.
C'est quoi?
TDI. TDI, c'est pour un contrat de travail, je pense.
Très drôle d'inconnu.
T'es dansant informel?
Alors, il me semble qu'il y a trouble, déficience, intelligence, quelque chose du style.
C'est turbo-diesel,
injection.
Ouais.
J'imagine que c'est le trouble dissociatif de l'identité.
Un trouble
Vous avez pu avoir justement un petit échantillon de ce que les gens pensaient du TDI. Notre invité va nous expliquer un peu plus.
Moi, j'aime bien. Il y en a un qui a dit trouble diesel injection.
Oui, mais voilà. C'est ce que ça évoque justement. Et c'est ça qui est bien justement. C'est spontané. Notre invité, justement, Émilie, qui est là, qui va nous expliquer un peu plus ce trouble et qui va nous expliquer cela. De l'intérieur, je dirais, un petit peu, ou comme elle veut, comme elle peut.
Du mieux que je peux.
Voilà, c'est surtout ça. Voilà.
Eh bien, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Donc non, il n'y a pas de déficience intellectuelle, tout va bien. C'est ce qu'on appelait à l'époque le trouble aux personnalités multiples, mais le terme a changé, parce que chaque identité, en fait, a sa propre personnalité. Voilà.
Mais par rapport à ça, justement, pourquoi est-ce que tu as voulu, c'est une des questions, pourquoi est-ce que tu as voulu justement nous en parler et que tu t'es adressé à Silence Radio, justement, qui peut parler un peu de la question un peu du trouble, question du trouble de manière générale. Donc, c'est ce qu'on aborde, mais voilà. Donc, quel bon vent t'as amené jusqu'à nous, quoi.
Il y a trois vents qui m'amènent.
OK.
Il y a trois objectifs déjà personnels. Déjà d'un point de vue personnel, parce que c'est un trouble qui est assez mal connu et dont ça provoque assez régulièrement un sentiment de honte quand même. Et donc c'est une démarche thérapeutique personnelle, déjà, d'une part. Ensuite, il y a une démarche d'en parler, de démystifier, de lever les tabous.
Médiatiser.
En médiatisant, voilà. C'est en touchant le plus de personnes que ça peut fonctionner aussi. Et il y a à peu près 1 à 3% de personnes atteintes en prévalence de ce trouble-là. Donc c'est quand même assez important, c'est le même nombre de personnes qui ont les yeux verts, par exemple.
Wow, c'est incroyable.
Donc il y en a plus qu'on ne pense, c'est un trouble qui se rend invisible, comme certaines maladies physiques peuvent se rendre invisibles, il y a certaines maladies psychiatriques qui aussi se rendent invisibles, dont celle-là.
Tu veux aider, toi, les gens de par un petit peu ton expérience de ça, déjà d'expliquer ça et de peut-être il y a une démarche, je pense.
Oui, il y a une démarche de ce genre-là. Ouais.
Aider les gens un petit peu.
Et il y a aussi une démarche, une troisième, parce qu'il y avait trois vents.
Oui, c'est ça.
Donc le troisième vent, c'est que je suis moi-même thérapeute. Et donc, dans mon métier, je parle beaucoup de... En tout cas, j'invite les personnes à être vraiment soi dans le monde. Et je me suis dit, ben, qui suis-je pour ne pas être moi-même dans le monde ? Je me dois d'incarner aussi cette valeur-là en acceptant d'être ce que je suis pleinement.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez prodiguer des soins malgré la maladie mentale ?
Oui. Oui, parce que j'aime à dire... Il y a une phrase, il y a une citation qui me plaît beaucoup et que j'ai pris pour, comme phrase de mon expérience personnelle, et je ne sais pas de qui ça vient, je ne sais plus. C'est « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. » Et je trouve que c'est ça, parce que je n'avais pas conscience que j'avais cette maladie-là pendant un certain temps.
Mais toutes choses impossibles peuvent devenir possibles.
Oui, mais ce qui est bien, c'est que je n'avais pas conscience que j'avais ce trouble-là. Donc, je me suis permise des choses que... Je pense que je n'aurais pas osé si on m'avait diagnostiqué trop tôt, en fait. D'accord. Et j'ai été successivement aide-soignante, infirmière, enseignante, et maintenant je suis thérapeute. Donc ça fonctionne.
Donc, vous avez le sens des autres et de l'écoute, non ?
Oui. Oui, déjà dans les métiers que j'ai choisis, le fait d'être dans les soins physiques, de soigner des corps abîmés, de les écouter quand ils souffrent ou quand ils sont endeuillés, ou même dans certaines pathologies psychiatriques aussi. Ça touche à l'humain et c'est ce qui me plaît en fait.
Ouais. C'est grand ce que vous faites. Est-ce qu'on m'entend dans la radio?
Oui, on t'entend.
C'est très bas. Enfin, c'est peut-être le casque. C'est grand ce que tu fais, si je peux te tutoyer, parce que c'est énorme. C'est une belle progression, une belle évolution. Et là, tu deviens thérapeute, c'est super. Mm.
Et alors, j'ai été aidée par mon propre psychologue, parce que je suis thérapeute en thérapie, bien sûr. Et donc, mon psychologue m'a parlé de cette radio-là. J'ai déjà fait une démarche médiatique. Ma démarche médiatique est en cours. Et donc, quand j'ai parlé de cette démarche-là à mon psychologue, il m'a parlé de Radio Psylance. Et puis, j'ai suivi le vent. Et me voici.
Ah ouais. Ok. Bienvenue.
Avant de rentrer un peu plus dans cet aspect thérapeutique, celui de soigner les autres, je voudrais un petit peu parler un peu plus en amont de ce trouble un petit peu identitaire et te poser une question de savoir quand est-ce que ça... C'est pas quand le moment est-ce que ça s'est arrivé, mais qu'est-ce qui a pu un petit peu déclencher ça et comment tu en as pris conscience un petit peu
Ouais. Alors il y a deux choses. Il y a le moment où c'est arrivé et le moment où j'en ai pris conscience.
Oui.
Le moment où c'est arrivé, c'est dans l'enfance. C'est un trouble qui est d'origine... très 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 souvent traumatique qui a lieu dans l'enfance et j'ai une amie en France qui vulgarise ça très bien et qui dit qu'il faut imaginer le cerveau d'un enfant comme un verre ici et le traumatisme est un pichet voilà un grand pichet d'eau et quand un traumatisme arrive c'est l'eau qui se déverse dans le verre et pour intégrer une expérience traumatique il faut en parler à son thérapeute, être aidé par ses parents, avoir des pères, etc. Or quand ça n'arrive pas, le cerveau n'a d'autre choix que de multiplier les verres. Et donc, c'est de là que viennent mes différentes identités. Chacun prend un morceau du vécu qui a été trop difficile pour moi à gérer toute seule. Schématiquement, c'est comme ça. Et il y a souvent des récurrences dans les traumatismes. Donc, ça veut dire que ça est arrivé plusieurs fois. Ensuite, la prise de conscience est une chose différente. Ça veut dire que... déjà, c'est un trouble dont on parle peu. On a entendu le micro-trottoir. Je faisais partie de ces gens-là qui ne savaient absolument pas ce que ça voulait dire. Et donc, comment je peux mettre le doigt sur quelque chose si je ne sais même pas que ça existe ? Et donc, j'en ai pris conscience quand il y avait un énième événement, un énième symptôme où je me suis vraiment posé des questions. Et là, j'ai compris, j'ai osé aller voir ce qui se passait. Et je crois que j'avais toujours su. De par mon métier, j'avais étudié beaucoup de maladies psychiatriques et j'avais fait en sorte d'éviter celle-là. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, on va aller voir.
Vous avez fait le pas.
J'ai fait le pas. J'étais prête. Disons que l'acceptation est encore en cours.
Ah ok.
Mais par rapport à ce trouble, est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu te sens différente un petit peu des autres ou comment est-ce que tu le prends? Comment est-ce que tu l'intègres dans...
Comment tu le vis?
Ah, c'est une vaste question. Alors je me sens comme les autres et en même temps pas comme les autres. je me sens comme les autres parce que je fonctionne dans la société.
Tu es
dans...
un être humain.
Voilà,
comme
j'ai...
Comme tout le monde.
J'ai, ici, moi qui vous parle, c'est Émilie qui est là au contrôle.
Salut.
Donc, j'ai, salut. J'ai ma vie sociale, professionnelle, j'ai mes goûts, mes émotions, mes coups de gueule aussi.
Et tes coups de cœur.
Et mes coups de cœur aussi, ouais. Et puis, y a aussi un côté très handicapant où bah, parfois d'autres identités viennent prendre le relais pour une raison bien spécifique. Ce n'est pas aléatoire. Ça, il faut le savoir, ça prend pas. Je ne vais pas me transformer en monstre sanguinaire d'un seul coup. Mmh. Voilà, donc, voilà, c'est...
Je comprends.
Ça vient pour une bonne raison.
Voilà, il ne faut pas
brûler les étapes et
s'accepter. C'est ça, j'appelle ce trouble-là, je ne l'appelle pas trouble déjà, ça m'embête, ça fait très pathologique. Non. J'appelle ça mon handicap super-pouvoir.
D'accord.
Mmh. Et, donc, il y a une certaine difficulté à accepter ce qu'il arrive.
Oui.
Et... Comment ton entourage a géré ça aussi ou a réagi, je sais pas.
Eh bien, ils ont suivi un peu mon parcours, c'est-à-dire que j'en ai pas eu conscience, eux non plus. Par contre, ils se sont posé des questions sur ma santé mentale. J'ai quand même eu un parcours assez chaotique, des amnésies fréquentes, des hospitalisations en psychiatrie, hein, tout le bagage de psychiatrie et de parcours psychiatrique. Et on n'a jamais su pourquoi j'avais pas été bien et pourquoi j'avais été mieux d'un seul coup aussi. Personne, même l'hôpital psychiatrique, n'a pas compris. Les thérapeutes sur place n'ont pas compris et m'ont soigné pour quelque chose que je n'avais pas. Ils m'ont malheureusement diagnostiqué des mauvaises choses. Ils m'ont médiqué alors qu'il ne fallait pas. Et donc ça a re-traumatisé sur les traumatismes.
Mais je pense qu'un passage en psychiatrie, c'est aussi une épreuve. Mm-hmm. C'est encore plus difficile que de prodiguer les soins.
Bah, j'étais hospitalisée en psychiatrie quand j'avais entre... Je ne sais même plus, parce que j'étais tellement...
Quand j'étais jeune.
Non, j'alternais tellement d'identité que la relation au temps était assez difficile pour moi. Mais je vais dire entre 18 et 20 ans.
Okay.
Et en cumulant les hospitalisations, j'y suis restée un an. Et très souvent enfermée d'office. Et j'y étais maltraitée à l'intérieur. Donc ça a rajouté, en fait.
Mais j'ai une question.
Il y a un mal-être.
De poser un diagnostic précis sur, comme tu dis, ce super pouvoir. Est-ce que ça a pu t'aider à mieux accepter ce que tu étais ?
Il y avait un double... Y a l'effet qui se coule un peu. Il y a le côté « Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé, je vais pouvoir trouver une solution. » Et puis l'effet « Ah, en fait, on n'en guérit pas. » Donc voilà, j'étais contente parce que j'avais enfin trouvé. Il y a très peu de lectures sur le sujet. Il y a très peu de thérapeutes qui connaissent ça, ou qui s'y connaissent assez pour aider. Donc j'étais quand même contente d'avoir enfin trouvé, donc ça voulait dire que je pouvais trouver potentiellement des pistes de solutions, déjà que je suis thérapeute, donc je peux aussi, de par mon métier, je peux m'en trouver pour moi aussi déjà, c'est ce qui est bien. Mais il y a l'autre côté, c'est qu'on n'en guérit pas. Mmh. Ça se stabilise, mais on n'en guérit pas. Et il y a quelque chose dans la prise de conscience et le diagnostic qui est un peu pathologisant aussi, qui rend les choses un peu plus pathologiques. Et c'est normal, c'est l'effet prise de conscience et après il faut que ça se tasse, ça commence à se tasser seulement maintenant.
C'est comme quelqu'un qui a perdu l'utilisation de ses deux jambes et qui est obligé d'avoir une prothèse.
Mm-hmm.
Il apprend à vivre avec son mal. Quoi.
Voilà, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
J'ai une question, quand tu parles de trouble de l'identité, c'est un peu ça, trouble de l'identité.
Dissociatif de l'identité. Ouais.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment tu es, est-ce que donc... Par exemple, lundi, t'es telle personne, mardi, t'es telle personne. Comment ça se passe ?
Je peux te donner un exemple de configuration. Ouais.
Ouais, concret. Concret, comment tu l'as vécu ?
Alors, il faut savoir que quand ça alterne, il y a à chaque fois des configurations différentes. Donc, ça, on appelle ça des switches dans le jargon. Ça switch en anglais.
Dans le jargon du TDI.
Dans le jargon du TDI. Et les identités, on les appelle des alters. Dans le jargon du TDI, toujours. Donc, quand ça switch, chaque switch, est différent. Et a sa configuration. Donc, je peux... complètement être en amnésie. Donc quelqu'un prend le relais pour une raison bien spécifique. Et pour mille raisons, je peux être en amnésie complète. Donc je vais me réveiller, entre guillemets, quand je reviendrai. C'est avec un événement de ce type que j'ai pris conscience que j'avais le TDI, parce que c'était une énième amnésie. J'avais perdu 4 jours, en fait. J'avais été remplacée pendant 4 jours. 4 jours après, je suis revenue, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
Et ces 4 jours, tu faisais quoi ? T'étais...
En fait, c'était en avril dernier, mon papa a fait un infarctus et ma mère m'a appelé au téléphone. Je sortais de la piscine avec un ami. Donc je me suis mise bien sûr à pleurer, les tensions intensives, donc il y avait une montée d'émotions énorme. Et puis là, j'ai commencé à me dissocier, donc ça veut dire que tout devenait flou, un peu comme la dissociation est vécue par tout le monde, il ne faut pas être TDI pour en avoir ça. Donc ça, tout devenait flou, et puis après j'ai perdu la mémoire. 4 jours après, je me souviens avoir refranchi les portes de mon appartement en Belgique, ma famille est en France. Et j'ai dû demander à ma mère ce qui s'était passé. J'avais passé 4 jours en France à la conduire à l'hôpital, à dormir là-bas, à l'aider, à travailler à distance. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me souviens juste d'avoir refranchi les portes de mon appartement, et mon appartement c'est chez moi, et là je suis revenue.
Okay. Très bien. Non. Il y a Chantal qui a une question.
C'est pas vraiment une question, c'est un partage dans le sens que ça me touche énormément, c'est historique pour des raisons très personnelles. Moi-même j'ai eu un blackout dans mon histoire de vie, sans m'étaler trop sur l'historique. Et disons que je connais le prix de la dissociation à mon niveau, dans le sens qu'un blackout à la manière d'un, bah forcément d'un trauma, il y a l'effet amnésique qui est compliqué. Le fait que ce que j'entends aussi, ça me fait penser un peu à comme une zone de gris dans la psyché qui fait qu'on n'a pas accès à certaines datas. Et qu'une fois que dans le moment présent, il se passe quelque chose de similaire à l'événement passé, il va y avoir soit une sidération ou soit une coupure avec soi-même pour surmonter. Parce que finalement, c'est ça la dissociation. C'est un peu comme disait Madonna à une époque, elle était comme une poule sans tête. Parce que de par tous ces traumatismes dont elle a parlé dans les médias, à un moment donné, pour surmonter tout ça, moi j'entends aussi qu'il faut c'est le cerveau, donc c'est l'organe number one du corps. Il faut se suradapter pour trouver un élan du... pas du cœur, mais du crâne.
C'est un peu comme une transmission de données dont on n'a pas la preuve, quoi.
C'est surtout un mode de protection. La dissociation arrive à un moment donné où il faut surmonter quelque chose, mais qu'en même temps... Être coupé de soi permet de ne pas être atteint par le choc du trauma. Donc c'est et donc et puis
quelque chose d'insurmontable.
Oui, un très grand choc.
C'est le cerveau qui protège
un petit peu. C'est le cerveau qui protège
d'une certaine manière.
Voilà. Et donc je sais pas, c'est pas mal invité évidemment, mais ça me fait penser à la posture en astrologie du Gémeaux, parce que par exemple en astrologie je vois en astrologie, le Gémeaux, c'est la question identitaire aussi dans la symbolique. Et c'est vrai que souvent, on dit que le Gémeaux est en conflit avec lui-même parce que psychiquement, à un moment donné, c'est comme un divorce interne, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà.
Mais là, un petit peu dans le TDI, il y a peut-être, comme elle dit, une sorte de divorce, quoi.
Ah, il y a beaucoup d'instances de divorce en cours. Alors.
C'est ça, alors. Le tribunal est...
Il est surchargé, le tribunal.
Il est surchargé. Pour faire une petite, pour laisser un petit peu décanter, parce que voilà, c'est très très intéressant cette conversation. Hélène nous a écrit un petit texte qui s'appelle La différence et qu'on va un petit peu écouter.
L'égalité peut être biaisée dès la naissance. Dès les premières heures, on peut appréhender la différence. Face à la souffrance d'un proche et de toute une famille. Les sentiments de révolte et d'injustice sont tout à fait légitimes. Les mots des mots et les souffrances pernicieuses des dissonances qui chantent la diversité. Jalons sur chaque chemin de vie décalé pour trouver l'équilibre, le sien, personnel. Parfois, naviguer à contre-courant et se perdre dans les dédales de la détresse. La vie reste la vie, avec ses multiples incidents, que nous rencontrons tous dans notre existence. Un peu d'eux, un peu moins d'eux. La reconnaissance jouissive des minorités est un premier pas vers l'acceptation et la reconnaissance de soi. La solidarité vient combler et soigner la pression sociale. Elle permet d'envisager un certain avenir et accompagne le besoin d'affection et de tendresse. L'homme, au cœur des préoccupations, la fidélité aux valeurs de l'humanité et des soleils d'amitié construisent l'affirmation et l'amour de soi et tissent des paroles d'expérience du vécu. Altérité, contraste, désaccord, discordance, disparité, dissemblance, distinction, divergence, écart, hétérogénéité, inégalité, opposition, variation, variété. Que de mots pour refléter les différences. Chacun, chacune, libre de les composer suivant sa vie, ses épreuves, sa réalité, ses tentatives et son environnement. Merci.
Merci Hélène pour ce texte.
Bravo Hélène, merci, c'était sympa. C'était très intéressant.
Très bien lu.
J'ai des questions pour Émilie, parce que voilà, on va rentrer un peu plus, et connaître un peu plus.
Moi, ce que je voulais demander à Émilie, c'est au niveau de la souffrance, en fait. Parce que, enfin, moi, je connais pas du tout, hein, le TDI, c'est vraiment nouveau. Enfin, j'ai appris ça à l'école il y a très longtemps, mais voilà, c'est tout quoi. Donc, j'ai jamais rencontré de personne qui disait souffrir de ce trouble. Enfin, moi, j'aime encore bien trouble. Mais bon, de ce handicap super pouvoir, c'est ça? Oui, voilà. qu'est-ce que je voulais savoir? Oui, au niveau de la souffrance, parce que, bon, elle est due à quoi la souffrance, en fait?
Alors, ça dépend quelle part souffre. je vais essayer d'expliquer un petit peu, et simplement, dans les identités, dans cette famille-là, il y a différents groupes. Donc on va déjà faire des groupes, ça sera peut-être plus simple. Il y a des identités qui sont issues des traumatismes et donc ils ont en eux une charge traumatique de souffrance, vraiment, qui vivent tout le temps, dans le corps, dans l'émotion, etc. Il y a des autres identités qui servent à gérer la vie quotidienne. J'en suis une. et donc la souffrance vient... déjà des identités en souffrance qui portent ce traumatisme et qu'on doit amener en thérapie, parce que devant mon thérapeute, les identités alternent devant lui. Donc il fait une thérapie systémique dans une personne, en fait. Voilà, il fait une thérapie de groupe avec un corps.
Mais il fait payer une fois ou plusieurs?
Non, il fait payer une fois. Voilà, ça me rappelle, j'ai été voir une amie qui a le même trouble que moi à Paris. On avait rigolé en disant qu'on allait réserver une table de 30. Voilà, on n'était que deux. Voilà. Donc il y a la souffrance de ces parties-là, mais moi, en tant qu'Émilie, ce dont je souffre, c'est quand ces identités-là viennent et que je les sens arriver avec leur bagage. Et moi, je ne supporte pas leur bagage, c'est pour ça que je suis en multiplicité, parce que mon cerveau n'est pas capable de supporter cette souffrance. Donc quand j'ai un alter, une identité traumatique, j'en ai 4 ou 5, qui ont des vécus assez violents, vraiment, je le ressens comme si je le revivais. Donc à chaque fois, il me téléporte dans le passé, un peu comme un flashback. Et donc, je revis très souvent des malheurs qui me sont passés depuis longtemps.
Donc, c'est très naïf, mais tu parles assez...
Oui. Oui. En fait, il y avait la question des configurations. Il y a les configurations des amnésies, il y a aussi les configurations où je peux voir ce qui se passe sans pouvoir contrôler les choses. Donc je sais qu'une identité a pris le contrôle du corps, c'est comme ça qu'on peut dire, mais je peux rien faire. Je le vois comme si on voyait un programme à la TV.
Comme si on n'arrivait pas à gérer son quotidien, quoi.
Moi, je n'arrive pas à gérer de où je suis, mais le quotidien est géré par un autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas géré ou qu'il n'y a pas de contrôle. Ça veut dire qu'il est pris par quelqu'un d'autre. D'accord. Donc je fonctionne parce qu'il est pris. Je ne perds pas le contrôle. Le contrôle a changé. C'est comme une équipe pluridisciplinaire, l'équipe de nuit, l'équipe de jour. Mais il y a toujours une équipe.
J'ai une question, parce que c'est très super intéressant, mais est-ce qu'il y a des entités masculines, féminines, ou est-ce qu'ils ont même des noms, quoi?
Il y a tout ça. Alors, c'est des identités, pas des entités.
Oui, c'est ça, des identités.
Je préfère le préciser parce que beaucoup me disent que j'ai des entités et qu'il faut me faire exorciser. Alors,
oui,
non.
On peut parfois être... on peut faire cette... comment dire, cette...
amalgame.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est des identités.
C'est des identités, ouais. Et donc, ils viennent vraiment avec leur âge, leur sexe aussi, avec leur... rapport au corps, donc quand je suis parfois avec eux, je peux sentir que temporairement, le temps que je passe derrière, mais je sens que c'est un enfant qui va venir, je sens tout ça.
Même physiquement
Même physiquement, je peux être malade différemment. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai eu le Covid il n'y a pas longtemps. Moi, quand je suis malade, je fais la drama queen dans mon canapé. Oh mon Dieu, c'est la fin de ma vie, comme ça, un petit peu, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Mais j'en ai
hypochondriaque peut-être.
Non, mais j'aime bien me plaindre un petit peu.
Ah oui. Drama queen, je souffre.
Ouais, c'est ça, un petit peu. Voilà.
Le malade imaginaire.
Ouais. Mais ça fait du bien aussi. Bon, voilà. Je suis un peu comme ça. Et puis quand j'étais malade, à un moment donné, il y en a une qui a pris le relais. Mais elle sentait pas la maladie. Donc elle a nettoyé l'appartement, elle a téléphoné, elle a dansé, elle a mis la musique. Moi, je sentais plus la maladie de là où j'étais parce que j'étais derrière. J'étais en dissociation derrière. Mais je voyais ce qu'elle faisait avec le corps. Mais quand je suis revenue dans ce corps, quand elle m'a laissé là à nouveau la place, je souffrais vachement, quoi, parce qu'elle a épuisé toute mon énergie. Après, les switches sont très épuisants. Vraiment.
Mais c'est comme des rôles. Attends, juste une question. J'ai l'impression, des fois, c'est comme des rôles, des sortes de comédiens qui viennent un peu... Je ne sais pas si c'est bon de dire ça ou...
Alors, ils ont un rôle, mais pas comédien. C'est vrai que quand ils viennent, c'est qu'il y a un déclencheur. Ils ne viennent pas sans déclencheur.
Oui.
Par exemple, si moi, je suis là au contrôle avec vous, c'est parce que je gère les relations sociales, la relation avec les gens, qu'ils soient les médias, les amis, la famille. Quand je suis en voyage, et il se trouve que Bruxelles, ce n'est pas ma ville, donc j'ai dû prendre le train pour venir. Il y a toutes ces raisons font que je suis là devant. Et il y en a plusieurs, en plus des déclencheurs ici. Donc, je suis persuadée qu'il n'y aura personne qui va prendre le relais aujourd'hui. Enfin, en tout cas, devant vous. Quand je serai à la maison, j'en sais rien.
Mais je voudrais juste me pencher pour essayer d'imaginer. C'est peut-être des clichés, mais je pense à deux films, Fight Club et Dédale. Je ne sais pas si tu as vu ces films-là, non ? Ok.
Moi, j'ai vu Fight Club, surtout avec Brad Pitt.
C'est ça, et Dédale.
Oui, ça a beaucoup aidé. C'est un film qui a beaucoup
Tout à fait, ouais.
Aidé. Ouais, c'est vraiment un film marquant.
Ce que c'est que le TDI, en fait.
Exactement, exactement. Bon, c'est à la manière d'Hollywood, mais c'est vrai que...
C'est bien fait.
C'est très bien fait, vraiment. Surtout
c'est
vers
vrai
la
que c'est un beau film.
D'accord, je regarderai.
Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu te dévoiles qu'est-ce que tu vas faire de cette peut-être éventuelle, potentielle stigmatisation?
Je ne compte pas en faire quelque chose. Le fait d'avoir ouvert le chemin et d'avoir pu en parler, je pense que ça va permettre à d'autres peut-être d'oser. Donc je ne suis pas là pour faire quelque chose, mais peut-être d'ouvrir quelque chose.
Oui, mais je veux dire que peut-être que tu vas souffrir du regard de l'autre.
Peut-être, et c'est la ma thérapie aussi.
D'accord. Okay.
C'est la ma thérapie. Le fait d'oser... De travailler ce sentiment de honte. Et en même temps, dans ce coming out médiatique, je ne l'ai pas fait sans préparation. C'est-à-dire que j'ai progressivement prévenu mes sphères sociales peu à peu. Donc mes amis les plus intimes, puis les amis les plus larges, puis mon école, parce que je suis en formation. Je suis en formation ici à Bruxelles pour ma thérapeute. Donc ils sont courants, j'ai dû, comme ici, le verbaliser, l'expliquer, et aussi donner des petites clés pour qu'ils m'aident et que je puisse fonctionner avec eux. Puis j'ai prévenu ma famille, ça c'est quand même le morceau toujours un peu plus difficile. Et quand je l'ai dit, ma mère a dit « mais ça explique beaucoup de choses ». Donc il y a quelque part quelque chose...
Mais ça permet de s'ouvrir et de se libérer sur sa maladie en parlant.
Ouais. Après, il y a bien sûr le risque de... ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être très, très médiatisé, de commentaires, voilà. Les réseaux sociaux, ça reste des commentaires parfois gratuits, haineux ou pas.
Pourquoi les réseaux sociaux, je veux dire, si tu fais tes amis proches et tout ça, ils vont pas... Je veux dire, tes amis, ils vont pas mettre ça sur les réseaux sociaux.
Les médias sur lesquels je suis passée sont à grande échelle quand même. Mais j'ai le soutien. Mais je sais très bien que sur 100 messages de soutien, s'il y en a un haineux, je risque de m'arrêter dessus. Et là, c'est mon travail.
Ah oui, ça c'est ton
travail. C'est toujours comme
mais
ça.
C'est souvent comme ça, c'est très humain. C'est... Il paraît que c'est tout à fait humain.
Et c'est pour ça que j'ai constitué ce réseau de soutien avant.
Oui, oui, oui. Ouais.
C'est tout. Je voulais poser une petite question. Je voulais poser deux petites questions. C'était qu'est-ce qui était le plus facile avec sa personnalité et qu'est-ce qui était le plus difficile?
Bon, je vais commencer par le plus facile.
Ouais.
Le plus facile, c'est quand une personnalité prend le relais parce que je ne sais pas gérer quelque chose et qu'elle le fait bien. Ouais. Et donc, alors c'est très effrayant quand je reviens parce que je me rends compte que j'ai perdu le contrôle, et c'est très très effrayant. Il y a quand même quelque chose de très effrayant. Et en même temps, ben, c'était très bien. Je sais qu'il y a par exemple, il y a 5 ans, je suis très remplacée le mois de juillet-août. Spontanément, les étés, les vacances scolaires d'été, je suis très souvent remplacée. Et pendant un de ces remplacements, on va parler comme ça, j'ai une identité qui a décidé de passer le permis moto en un mois et demi et d'acheter la moto. Donc là, c'est assez particulier quand je reviens, que je me rends compte que j'ai une moto et que j'ai passé le permis. Mais moi, je ne sais pas très bien rouler à moto, par contre. Donc là, c'est le côté un peu super pouvoir, un peu spécial.
Ça peut être incroyable.
Est-ce que vous perdez pied lorsque vous êtes en vacances, sans que vous travaillez, par exemple?
Je ne perds pas pied, en fait, mais je perds la mémoire.
Aïe, aïe.
Je ne perds pas pied, je fonctionne. D'ailleurs, ça se rend invisible. Personne ne savait que j'avais un problème. Et même moi, à un moment donné, je ne le savais pas moi-même.
Mais en fait, il y a quoi? Il y a deux choses, je pense. Si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une amnésie totale et parfois, il y a une sorte de regarder les choses de loin.
C'est ça. Il peut y avoir des amnésies totales, il peut y avoir des amnésies partielles, du flou, en fait. C'est vraiment... Je vais remercier Christina, elle se reconnaîtra, qui vulgarise aussi ça très bien dans un TEDx sur YouTube, où elle explique ça comme ça. Vous imaginez que on est dans une voiture, que je suis dans une voiture. Là, maintenant, moi qui vous parle, je conduis la voiture. S'il y a un switch qui arrive, je peux passer en copilote, donc sur le côté passager.
Mmh.
Donc, je vois la personne à côté qui conduit. Ouais. Je vois le paysage qu'elle voit, mais je n'ai pas les commandes.
Ah oui,
Ensuite, il y a encore d'autres configurations. Je peux passer sur la banquette arrière. Donc là, je sais à peu près qui conduit, mais je ne vois plus le paysage et j'ai encore moins le contrôle. Et ensuite, il y a la dernière configuration, c'est quand je me retrouve dans le coffre. Et là, je ne sais pas qui conduit. Je ne sais pas si elle va bien conduire. Je ne sais pas quand je vais revenir. Donc, toutes ces configurations-là sont tout à fait... Voilà, elles sont toutes là. Elles sont toutes différentes. Donc, quand je suis dans le coffre, je suis en amnésie. Et je peux aussi être copilote. Voilà.
Et le côté plus agréable, plus le côté chouette de...
C'est quand je suis copilote.
Hein?
Ou alors quand je gère la voiture toute seule, parce que moi, Émilie, j'ai tendance à vouloir le contrôle à tout prix, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. Parce que dans ma thérapie, le but, c'est que je lâche prise et que je laisse les identités prennent le contrôle. C'est un peu comme si tu laisses la voiture à ton copain, parce que toi, t'as trop bu, c'est parfois mieux.
Oh, oui, d'accord.
Mais est-ce qu'il y a une... Ça, c'est peut-être personnel, mais est-ce qu'il y a une entité dont tu as peur, qui peut prendre le relais et qui peut faire des choses qui pourront, toi, te déplaire en tant que... Émilie, de la violence ou qui peut aller dans des choses que tu pourras jamais faire, parce que là ça peut aller dans un côté Mr Hyde quoi.
Alors non.
C'est non. Parce que là ça.
Alors des identités toujours. Pas des entités.
Oui je sais pas pourquoi. Pardon. Des identités.
Sinon ça... tu peux dire alter.
Alter oui c'est
ça
je
te
sais,
convient.
C'est vrai que c'est
des. Ou les autres.
Les autres. Moi ouais, les autres oui c'est.
Alors. Le contrôle peut être pris par une partie traumatique. Et donc là, elle va avoir des vieilles stratégies d'adaptation qui ne sont pas forcément valables. J'en ai une, par exemple, un garçon, justement, qui s'appelle Nicolas, et qui, lorsque les voisins font un peu de bruit, parce que j'habite en appartement, s'il y a une petite dispute, parce qu'au-dessus, c'est une adolescente, panique beaucoup trop fort. Et je peux me retrouver à fuguer en pleine nuit. Donc, il fuit le danger, parce que je pense que dans son traumatisme à lui, le but, c'était de fuir. Quand j'étais en hôpital psychiatrique, c'était lui qui voulait fuguer de l'hôpital psychiatrique. Et donc, le travail dans la thérapie, c'est de rappeler à ce Nicolas qu'on n'est plus dans le passé. Mais c'est tout un réapprentissage de personnes qui ont été traumatisées, de s'ancrer dans la réalité et de rassurer cette partie qui a envie C'est normal de vouloir fuir le danger, mais de rappeler que le danger n'est plus.
Mais quand tu es en... Parce que c'est tellement passionnant, mais quand tu es, par exemple, en thérapie... Et... En fait, c'est une thérapie pour chaque identité.
Non. C'est une thérapie... Le but de la thérapie, c'est de connaître chaque partie, d'améliorer la communication et l'harmonie.
Mais et toi, est-ce que tu t'adresses à eux? Tu dis, par exemple, comme ça, Nicolas... Tu peux lui dire, Nicolas, on n'est plus dans cette configuration, arrête de fuir. Parce que ça peut te mettre dans des situations, tu te retrouves peut-être à 4 heures du matin, peut-être dans un quartier qui peut être, je veux dire, dangereux. Ou...
Bah, il ne va pas là.
Ah oui,
mais... parce que le but, c'est qu'il aille mieux, donc il va vraiment faire aller en sorte de s'apaiser.
Ah oui, d'aller dans un endroit.
Oui, oui. Il ne va pas me mettre en danger, en fait, lui. Ce qu'il veut, c'est d'aller mieux.
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui sont dangereuses?
Non. Aucune. Non. Le danger, c'est de ne pas laisser faire et. Et de vouloir, par exemple, j'en ai une qui défend le corps. S'il y a un sentiment de danger, par exemple, je suis suivie dans la rue par quelqu'un d'inconnu et que je sens que voilà, c'est mal famé et tout le bazar, je la sens venir. En général, je la sens bien venir. C'est comme vous, quand vous sentez une personne rentrer, vous sentez son énergie. Elle, je la sens aussi, son énergie. Et donc... elle peut venir pour défendre le corps si c'est nécessaire et se battre s'il faut. Au contraire de Nicolas, elle va attaquer. Ce qui est bien. C'est tout des stratégies de survie bonnes, en fait. Mais moi, le rôle, c'est de la laisser passer, pas de l'empêcher. Et j'ai pu avoir des agressions. Alors déjà, j'aurais pas dû en avoir parce qu'il ne devrait pas y avoir d'agresseurs, déjà tout court. Mais s'il y en a un, c'était de la laisser passer pour qu'elle me défende. Et moi, mon travail... c'est d'oser accepter qu'elle passe pour me défendre. Donc, elle n'est pas dangereuse, au contraire. Si elle est dangereuse, c'est parce qu'elle me défend, pas parce qu'elle attaque. Et parce que c'est nécessaire.
Protectrice.
C'est une protectrice.
Est-ce qu'elle est manipulatrice, même pour des choses positives? C'est pas pour arriver à sa fin.
Alors, j'ai 14 haltères en tout. J'en ai qui sont en dormance, donc j'en entends plus parler. J'en ai qui sont en interne, donc ils ne viennent pas... dans le monde, parler avec vous ou agir. J'en ai 4 ou 5 qui interagissent avec le monde. Mais dans tout ce petit monde, il y a autant... C'est comme si vous preniez les 14 premières personnes dans la rue que vous les mettiez en colocation. Donc il y a autant de personnalités et de différentes dans ces personnes. Il peut y avoir des manipulateurs, des joyeux, des...
Manipulateurs pas négatifs, quoi, je veux dire.
Non. Je n'ai même pas de manipulateur, je crois.
C'est plus un jeu, quoi, de rôle, un jeu de rôle.
Non, c'est pas un jeu de rôle. Ils viennent vraiment pour aider. C'est pas. Non, je trouve pas.
Ah non, oui, c'est pas un jeu. C'est plus en fait enfin, pour expliquer mieux.
Ce sont des personnes, en fait. On peut pas leur dire tiens, c'est la joyeuse, c'est la persécutrice, c'est la protectrice. Ce sont des personnes avec bien sûr leur personnalité à elles. J'en ai une qui est par exemple autistique. Moi, je ne sais pas du tout. J'adore le monde. Elle a très peur du monde. Elle angoisse. Donc,
moi, j'ai une question un peu... parce que vous parliez aussi de votre formation, que vous suiviez une formation pour être thérapeute. Comment on réagit Je ne sais pas si ça, le coming out, il a déjà été fait auprès des thérapeutes qui vous suivent.
Tout est fait.
De la formation, voilà. Je voulais savoir comment ils avaient réagi. Est-ce qu'ils prennent conscience que finalement, c'est plus peut-être un plus pour toi qu'autre chose, en fait, de l'avoir dit et de pouvoir l'utiliser. C'est un outil extraordinaire, peut-être.
Comme une émancipation de l'identité.
Déjà, au niveau de l'école, ça a été très, très bien accueilli, vraiment. Et je les remercie, s'ils m'écoutent, et je pense qu'ils vont m'écouter. je les remercie vraiment, autant les formateurs, mon référent et mes camarades de classe. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à le dire, vraiment. Il a fallu sauter le pas dans le grand bain. J'avais peur de ne plus avoir ma place dans la formation. Elle me tient à cœur, vraiment. En sachant que j'ai déjà été rejetée par d'autres institutions ou d'autres structures parce que j'avais un trouble et que thérapeute trouble, ça ne peut pas fonctionner. Mais si, ça fonctionne. Et donc, ça a été très, très, très difficile de faire le pas. Et on a mis en place peu à peu, tranquillement, week-end par week-end, parce que c'est des cours en week-end, des petits... On a essayé de trouver des astuces pour signaler quand je rentre en dissociation ou quand il y a un switch. Parce que la formation est très confrontante émotionnellement. Donc les switches ont lieu là-bas. Et je passais mon temps, avant le coming out, à me m'hyper contrôler, mais j'étais épuisée à chaque fin de week-end. Mon but, c'était d'arrêter ça, de laisser venir si ça venait. Et donc, au final, je contrôle toujours un peu trop. Et c'est mes camarades qui me disent « laisse aller ». Donc, ils sont presque mieux accueillants que moi, je ne le suis, envers moi-même. Et donc, je les remercie aussi.
Mais là, on va écouter. C'est vraiment très, très passionnant, cette émission, j'avoue. Mais on va écouter, en fait, la suite du micro-trottoir qu'on a réalisé sur le TDI.
Trouble dissociatif de l'identité appelé personnalité multiple.
Donc
c'est une personne qui a plusieurs personnalités en fait. Okay. Plusieurs identités dans un seul corps en fait.
Okay.
Et on voudrait savoir ce que vous en pensez.
C'est une maladie, hein. Je pense que c'est une maladie qui existe.
Moi non, à part la schizophrénie, je ne connais pas d'autres troubles.
La bipolarité, moi dans un trouble identitaire, je pense aussi bipolarité avec des forts hauts et des forts bas et que tu as du mal à contrôler ça, quoi. Tu ne peux pas le gérer et tu as besoin d'aide, que ce soit psychiquement ou médicamenteux, quoi.
Est-ce que vous pensez être habité par une ou plusieurs personnalités ?
Non.
Non ?
Non,
du tout.
Non, c'est, on va dire que c'est peut-être les humeurs...
Les humeurs changeantes.
Les humeurs changeantes qui font que de temps en temps, on a l'impression d'avoir une personnalité différente.
En fait, voilà, de temps en temps, j'aime bien me transformer en femme, mettre des vêtements de femme, des sous-vêtements, des collants, des petites jupes. Et voilà, moi, ça me fait du bien. Et parfois, c'est difficile pour le regard des gens, mais bon, c'est mon identité à moi que j'accepte et que j'assume pleinement.
Ce que ça m'appelle, c'est que il y a en chacun de nous, on va dire, de l'ombre et de la lumière, et que voilà, je sens parfois qu'il y a comme deux personnages en moi qui sont là et qui voilà, il y en a un noir et un blanc, on va dire, et c'est parfois difficile pour moi en tout cas à concilier. C'est pas, ça a plutôt cette impression de se demander est-ce que c'est moi. Et ça vient de toi, donc forcément ça fait partie de toi, mais c'est des parties que tu ne connais pas ou que tu ne veux pas voir de toi. Et tu as l'impression du coup que tu découvres. Mais tu as l'impression que c'est pas toi, mais c'est toi.
Je pense qu'on peut à des moments être dans des situations où on est de colère et qu'après quand on y repense, peut-être pas passer à des actes ou à des paroles blessantes, mais d'un coup avoir certains moments des jugements très durs envers soi-même ou d'autres, et qui d'un coup, avec le recul, on se dit tiens, c'est bizarre, comment ces choses-là ont pu autant me toucher, ou comment ça a pu m'amener à pas se reconnaître. Je pense qu'on a, ou à des moments aussi où on est moins en forme, on est vraiment dans des plus grandes tristesses, et après on se revoit un peu plus tard et on se dit ah tiens, là j'ai traversé quelque chose qui m'a mis
hors de toi, de
quelque chose où on était flottant, quoi.
En fait, cette réponse-là, ça dépend consciemment ou inconsciemment. Consciemment, il y a celui qu'on montre et celui qu'on montre pas. Moi, je crois qu'il y a toujours une partie, un visage qu'on montre. Il y a plein de choses intimes, etc., qu'on montre pas ou qu'on veut pas voir non plus, quoi. Après, il y a des masques, etc. Après, je crois que ça c'est conscient. On le sait, ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Après, par contre, inconsciemment, c'est les autres qui nous le disent. Si inconsciemment, il y a un souci et que...
Dans ce cas-là, on est tous des TDI, alors du coup... On a tous des personnalités multiples, mais en fonction des personnes qu'on rencontre, on a des... Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on s'adapte en fait à chaque fois selon les rencontres, donc du coup, peut-être qu'on est multipersonnalisé selon chaque personne avec qui on est. En fait, on a peut-être autant de personnalités qu'autant de rencontres qu'on fait humainement. En fait.
On n'a pas la même personnalité quand on se présente devant un patron ou quand on est chez soi à la maison.
Peut-être. Ah bah... Ouais, sûrement. Carrément, on n'est pas la même quand on est au boulot, quand on est avec nos amis, quand on est à la maison.
Ce serait pas pour vous une maladie alors ?
Non, pas forcément.
C'est discutable.
C'est discutable.
Ah, vu comme ça, non. Après, moi, je pense que c'est une maladie à partir du moment où on n'en est pas conscient, où ça devient dangereux, où ça
prend le dessus, peut-être.
Où on n'a pas la maîtrise. Où...
Ouais, oui, c'est où ça ne contrôle pas.
Ça, cette espèce de maîtrise dans la personnalité qui interagit, et du coup, on l'utilise pas. Ah, je sais pas, ouais, c'est...
À quel moment c'est dangereux ?
Oui, c'est ça.
Moi, je me dis, c'est dangereux à partir du moment où ça met en danger les autres ou soi-même, dans le monde avec lequel on vit, avec les gens autour. C'est qu'on vit pas seul dans le monde, on vit avec tous les êtres humains qui nous entourent, etc. Et du coup, si à un moment donné, soit c'est dangereux pour soi ou pour les autres, bah, du coup, c'est là où ça peut être compliqué.
Évidemment, j'ai l'impression qu'on est tous et toutes... des personnes multiples à l'intérieur, mais j'imagine qu'il y a des multiplicités qui sont plus drastiques que d'autres, on va dire ça comme ça.
Et par rapport aux identités multiples, moi ce que ça m'appelle aussi, c'est par rapport au rôle que... Parce qu'on a tous des facettes différentes au-delà de l'ombre et de la lumière, et que je pense que les gens ne sont pas les mêmes en famille, qu'au boulot, qu'avec leurs amis, que peut-être encore entre différents amis, entre différents membres de la famille, et que ça fait partie peut-être aussi ses rôles, ses facettes, peut-être des identités multiples. Après, c'est l'idée de ne pas faire le grand écart, sinon on ne sait même plus qui on est, je dirais. On s'adapte toujours tout à tout.
À tout le monde.
Ouais, à tout le monde, finalement. On peut se perdre, en fait. Ouais. Et puis finalement, même pas savoir qui on est.
Et voilà, nous sommes de retour justement sur Radio Panique pour parler du TDI avec Émilie comme invitée. Et moi, j'ai une question justement pour Émilie par rapport à ces identités multiples. Est-ce qu'il y a des conflits entre alters ? Est-ce qu'ils peuvent se battre entre eux, en fait ?
Bah, écoute, exactement comme tu mettrais plusieurs personnes dans une salle, il y a des affinités, des conflits, des ambiances festives, des ambiances pas du tout festives, où ça se dispute. Oui, oui. Et je peux les entendre aussi. À l'intérieur.
Est-ce qu'il y a un switch qui se fait comme ça de l'un à l'autre ou bien c'est, ils sont tous présents au même moment
Non, non, non. Ça dépend. Je peux avoir une identité qui me parle de l'intérieur et moi je suis au contrôle. Donc je peux juste avec ma pensée lui répondre. Oui. Donc on parle de pensée en pensée en fait. Oui. Ce sont des voix pensées. Okay. Pas des voix dans l'oreille, des voix pensées.
Des voix pensées.
Et parfois je suis. Enfin, en silence, et je peux entendre deux qui parlent dans ma tête. Alors, je peux les entendre soit très clairement, parce qu'ils sont très proches du bord, oui, on va dire qu'il y a un bord, ou alors un peu comme on entendrait deux personnes dans le couloir ou encore plus loin, donc ça devient flou. On peut attraper quelques mots, ou on peut deviner un peu si ça se passe bien ou pas, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, j'ai toutes ces configurations-là qui sont possibles.
Et alors, quelle astuce tu as pour gérer ça ? Est-ce que tu es juste témoin ou il y a quand même une interaction qui peut...
Enfin, Alors, si je suis convenée par la discussion interne, je peux interagir avec eux et c'est ce que mon thérapeute aimerait que je fasse. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que toujours l'acceptation du trouble est difficile et je sais que quand je leur parle, elles me répondent. Et quand je les entends me répondre, c'est assez perturbant à chaque fois pour moi. Je suis la seule identité dans tout ce système qui a du mal dans l'acceptation de ça.
Alors, je pense à un autre trouble mental qui est la schizophrénie. Parce que ce que tu dis, parfois, ça pourrait faire penser, je dis bien, ça pourrait faire penser aux voix que des schizophrènes peuvent entendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus la différence entre ces deux symptômes ?
Alors, je peux expliquer la différence selon mon expérience personnelle, ouais, parce que je ne suis pas experte en santé mentale. Je sais que dans la schizophrénie, en général, ce sont des voix qu'on entend comme si elles étaient réelles dans l'oreille. Enfin, c'est je ne sais pas, on m'en témoigne. Moi, ce ne sont pas des sons dans l'oreille, ce sont des voix pensées. C'est-à-dire que vous avez votre voix intérieure, vous parlez à l'intérieur. Mais moi, j'ai plusieurs voix à l'intérieur, avec d'autres tessitures de voix. Okay. Donc ça, je trouve que c'est la grande différence. Ça ne veut pas dire que des personnes qui ont un TDI, parce que dans les personnes TDI, il peut y avoir de la comorbidité, c'est-à-dire d'autres pathologies. Mm-hmm. Et malheureusement, la schizophrénie peut faire partie du TDI en plus.
Mais c'est en plus, c'est ça. C'est
là, on part dans d'autres bazars. Et donc, par exemple, j'ai une identité qui a 3 ans, qui s'appelle Lucie, et qui ne parle pas. Elle ne parle pas, mais elle ne fait que pleurer. Et pendant des années, je l'ai entendu pleurer dans ma tête. Et maintenant, ça s'est apaisé grâce à la thérapie.
J'ai une question un peu plus... Est-ce que, par exemple, quand ça... des entités... Oh, je dis des identités, je ne sais pas pourquoi je dis entité. Identité prend l'ascendant, est-ce que ta voix change? Ta voix réelle, est-ce qu'elle change?
Alors oui, elle peut changer. Après, ces identités, si elles ne vont pas se laisser voir si la personne en face n'est pas au courant de leur existence. Donc, elles peuvent prendre le contrôle, mais garder ma voix exprès. On appelle ça du masking.
Ok, ah donc, oui, ça c'est.
C'est pour
oui.
ça que ça se rend très invisible.
C'est très vicieux.
En fait.
Ah oui,
c'est très vicieux. Ah, bah,
ah oui, je vois.
C'est
je...
comme vous n'allez pas vous dévoiler au premier inconnu dans la rue.
C'est vrai.
Bah, ah oui, ils ont exactement. Faut imaginer ces identités comme des personnes normales, en fait, réelles. Vous n'allez pas parler à un inconnu comme ça et vous dévoiler. Après, plus la relation avec cette personne est intime et de confiance, plus l'identité peut venir en tant que telle. Et oui, je peux changer de voix, d'attitude, de comportement complètement.
Mais comment ça se passe? Donc, est-ce que tu, systématiquement, est-ce que tu préviens les personnes peut-être dans ta vie privée ou par rapport à ta famille? C'est peut-être une question intime, mais sentimentalement, est-ce qu'il y a des choses
On pose souvent la question.
Oui, parce que c'est une question qui me vient, mais qui est de dire, par exemple, on a en face de nous plusieurs personnages, je dirais, ou personnalités.
Bah écoute, ce qui était assez curieux pour moi, c'est que je pensais qu'ils allaient être très déstabilisés. Mais mes amis, ils ne le sont pas du tout. Ils sont au contraire très accueillants, curieux, dans la bienveillance. Et ils disent, bah ok, moi j'accueille tout le monde et puis on continue la conversation qu'on avait, quoi. Je crois que pour certains amis qui m'apprécient beaucoup, je leur avais dit que je portais des chaussettes jaunes, c'était le même effet, quoi.
Jaune et rouge.
Est-ce qu'on peut stabiliser la schizophrénie ou c'est une
maladie? C'est pas schizophrénie,
TDI.
Alors on peut le stabiliser. Et ça,
comment tu fais? T'as un traitement à prendre?
Je prends aucun médicament. Alors ça n'empêche pas qu'on peut en prendre dans des états de crise. Le problème, c'est que chaque identité a ses pathologies, entre guillemets. Donc si j'ai une identité qui est dépressive. Mais si elle prend des antidépresseurs, le problème, c'est que quand moi, je suis au contrôle, je ne peux pas prendre des antidépresseurs. Donc ça, c'est un problème.
Et j'ai une question, enfin, pas une question, mais une remarque, si je peux rajouter quelque chose. C'est que, comme vous disiez tout à l'heure, la conversation qu'il y avait entre toi et Sana, en fait, moi aussi, est-ce que je suis TDI, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, et ce que je ressens, c'est que quand je suis avec ma sœur, je ne suis pas le même quand je suis avec Stéphane. N'est-ce pas, Stéphane? Quand je suis avec Stéphane, c'est pas le même que je suis avec une amie que j'ai qui s'appelle Audrey, pas toi mais une autre Audrey, et que moi je considère comme ma sœur. Voilà, ma sœur de, c'est comme je dis t'es ma sœur parce que je la kiffe et j'ai un bon sentiment envers elle. Et c'est pas le même, et encore moins avec Karim qui est ou avec un autre Karim. Enfin je veux dire voilà, on est comme des caméléons. Je pense qu'on est tous un peu pareil sur cette question. Est-ce que je suis Est-ce que ça vous parle?
Oui, après, on peut avoir différentes personnalités, mais ici, je pense que c'est autre chose.
C'est plus fort, c'est plus comme si tu prenais la place de quelqu'un.
On affiche notre carapace.
Mon thérapeute explique ça. Il dit que dans les personnes, j'aime pas trop me différencier des autres, mais il y a quand même une différence dans ça. C'est que quand tu dis que tu parles à ta sœur, tu es différente à quand tu parles à Stéphane. Ce sont des états du moi que mon thérapeute dit. L'état du moi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va s'adapter. Ouais, en psychologie.
Psychothérapie.
C'est-à-dire qu'on va s'adapter à la personne qui est en face. Vraiment, on va avoir. Ouais. Tu vas à Disneyland, tu vas avoir ton enfant intérieur qui va se réveiller. Tu vas aller en boîte de nuit, tu as ton petit séducteur intérieur qui va sortir.
Exactement.
Bon, ça, ce sont des états du moi.
Des fois, j'aimerais bien être le petit enfant dans la. Dans la discothèque.
Oh, mais faut faire gaffe là.
Non, mais je rigole.
Et donc,
je plaisante en disant ça mais
ça peut
c'est vrai.
De ça.
Ouais, mais c'est vrai parce que par exemple moi, encore une fois, bah, comme je suis avec mon père, je suis pas comme avec d'autres personnes et ainsi de suite quoi.
On arrive un peu doucement vers la fin, donc je suis désolée un peu de vous couper. J'ai encore une question pour Émilie parce que voilà. Donc maintenant, on va arriver un petit peu à qui peut-on s'adresser. Donc il y a deux questions. Dans le cas de cette pathologie, à mettre entre guillemets, et de quel soutien dispose-t-on pour gérer son quotidien
Alors moi, je peux parler que de mon expérience. J'ai beaucoup d'outils matériels, donc c'est-à-dire j'ai un grand tableau à la maison où parfois les identités écrivent des messages.
D'accord.
J'ai les carnets de chacun avec des écritures différentes. Donc ça, c'est une manière de communiquer autre qu'en interne, comme ça en pensée. Et parfois, je peux retrouver des messages. Parfois dans mon téléphone, le téléphone est super outil, le Google Agenda par exemple, ce genre d'application pour pour les trous de mémoire, c'est plutôt pas mal. Il y a juste que parfois, mon agenda se remplit un peu trop.
Mais est-ce qu'il y a de l'humour ? Genre, n'oublie pas le pain, n'oublie pas
oui,
le gel
exactement,
douche.
Exactement, vraiment. Il y a vraiment ça. J'en ai une qui adore les pommes. Moi, je déteste les pommes.
Ah,
elle
oui,
me dit à chaque fois, achète une pomme quand tu vas au magasin pour moi. Et la meilleure, en plus, elle
veut. Ah oui, les Golden Lady, j'imagine. Ou
ouais.
Quelque chose.
On trouve tout avec Internet.
Les pink, je crois.
Les Pink Lady, c'est
pour
ça.
Pour les auditeurs, Sana... Émilie et Hélène, vous êtes habillées rouges, respectivement en rouge, jaune et vert. Vos micros sont de rouge, jaune et vert pour les auditeurs.
Ah,
et il y a une pomme Lady, une Granat Smith et une pomme verte. Comme ça, tout le monde est
servi.
Merci
de nous appeler les pommes.
C'est bon, c'est pour grave. Nos pommes. Pour vendre
les radio-pommes.
Non, mais pour est-ce que tu arrives à gérer ton quotidien? J'imagine que oui, puisque dans tout ça, ou est-ce que c'est un peu difficile
Je ne vais pas dire que je gère, mais ça se gère.
Ça se gère. Ah oui, puisque ça.
Ça se gère. Oui, il y a des outils. Après, l'aide qu'on peut avoir, c'est surtout d'aller chercher le soutien où il y en a vraiment. Donc, d'avoir des amis qui sont aptes à le comprendre et à nous soutenir, mais vraiment pas des amis qui peuvent ne pas comprendre. Oser dire de couper les liens avec des personnes qui ne portent pas. Aussi, d'aller rencontrer des personnes qui ont ça et qui ont déjà une stabilité. Moi, j'ai fait la démarche d'aller rencontrer des personnes qui ont les mêmes troubles, mais dedans, j'ai dû trier. Parce que, bien sûr, il y en a qui en souffrent beaucoup et j'ai peut-être pas besoin de ça maintenant, même si je suis OK qu'ils souffrent et que je suis tout cœur avec eux. Mais je dois aller vers quelque chose qui me porte pour l'instant. Et je serais mieux à même, en plus, de les aider si je vais d'abord vers ce genre de personnes. Et d'aller là où les personnes ont déjà marché avant moi aussi. Des personnes qui ont déjà fait leur coming out, par exemple, ou qui ont traversé ce sentiment de honte déjà. Donc tout ça, après, de trouver des thérapeutes pas forcément spécialisés dans le domaine, mais assez ouverts d'esprit pour accueillir la différence.
Mais toi, dans ta formation, c'est quoi cette formation? C'est pour aider les gens...
Ma formation thérapeute?
Oui, de thérapeute, c'est pour aider...
Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec des gens qui ont un problème thérapeutique?
Non, mais par rapport à ça, est-ce que ta formation de thérapeute t'aide? C'est pour aider des gens justement par rapport au TDI ou c'est
d'autres? Ah non, pas du tout.
Ah, c'est pas du tout ça.
Au sens large, je suis pas spécialisée en
quoi
que ce
soit.
Ah oui,
voilà, c'était
ça. Et je souhaite pas me spécialiser, surtout pas.
Ah ok, c'était ça.
Parce que si j'étudie trop cette maladie-là en étant personnellement concernée, je peux tomber de l'autre côté et ne voir plus que ça.
Oui, c'est
ça. Et je préfère me préserver et je fais exprès de pas trop me spécialiser là-dedans.
Ah oui, d'accord.
J'ai un ami qui dit souvent pour un marteau, tous les problèmes sont des clous. Je trouve cette phrase super, j'ai pas
ouais,
envie
non,
d'être ce marteau.
C'est très imagé. Nous allons faire.
Je vais le faire parce que Pascal n'a pas ses yeux, comme dit mon père.
D'accord. Bah,
donc, elle a ses yeux, mais pas ses yeux.
C'est Mehdi qui va nous faire les brèves de Pascal.
Je suis les yeux de Pascal.
Bonsoir à tous. L'agenda. Alors. Pascal nous propose 5 petits événements. Le premier événement, la semaine de Rezone, a débuté aujourd'hui, se poursuivra jusque vendredi. Rezone, c'est le réseau 107 du sud de Bruxelles. Pour cette 4e édition, même principe que pour les éditions précédentes, plus de 75 services divers ouvrent leurs portes. Cette année, le secteur de la jeunesse est à l'honneur, avec des services qui accompagnent enfants et adolescents. C'est une semaine réservée aux travailleurs de terrain et les inscriptions sont clôturées. Mais je vous fais un petit point le mois prochain. Début avril, le centre médical Enaden ouvrira un nouveau centre de jour pour jeunes à Forêt. Il s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans présentant des problèmes liés à une addiction. Le centre accueillera les jeunes dès le lundi 3 avril. D'ici là, la première séance d'information aura lieu le mercredi 22 mars, donc c'est ce mercredi. Pour plus d'informations auprès d'Enaden, c'est le 02 534 63 73. Je rappelle aux auditeurs que cette émission peut être réécoutable et vous aurez les numéros quand vous voulez. Il y a aussi la FEDITO BXL, la Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes, qui propose une nouvelle rencontre.
Oui, nous sommes en train d'écouter.
On entend de la musique. Propose une nouvelle rencontre, Live Sessions, dans un format court sur le temps du midi. Les midis de la FEDITO BXL, prochain midi de la FEDITO, le jeudi 30 mars à midi. Présentation du coffre-fort numérique. Il y a encore deux rendez-vous.
Nous sommes en train d'écouter justement Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Gainsbourg pour terminer justement doucement cette émission. Merci Émilie en tout cas, merci d'avoir été là seule et pas avec tes autres identités. Bienvenue pour une autre émission, si tu veux. Merci beaucoup d'avoir partagé justement ce moment avec nous. Nous allons justement doucement vous quitter Et j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous sur Radio Panique, Silence Radio. Merci beaucoup à vous tous. Merci à la régie et merci aux chroniqueurs aujourd'hui d'avoir été là avec nous.
Bonne
émission.
Soirée,
merci. Au revoir.